Notre grand témoin de cette semaine se nomme Laurent. Laurent Gauthier, vous êtes président d'une association fort originale qui s'appelle Canette Partage. Peut-être que certains auditeurs ont déjà entendu parler de cette organisation et vous ont déjà entendu parce que vous venez régulièrement sur Ecclesia nous parler de différentes manifestations organisées via Canette Partage. Et moi, j'ai eu envie de vous avoir comme invité du grand témoin d'Ecclesia parce que je vous considère comme un optimiste viscéral. Bonjour Laurent.
Bonjour Hélène, merci pour votre accueil, c'est gentil.
Vous êtes originaire de notre région, Laurent ?
Alors non, pas du tout. Je suis originaire de la banlieue parisienne, plutôt en pleine campagne en fait, parce que quand on dit banlieue parisienne, les gens pensent à Paris. Alors qu'en fait, nous, Paris, c'était notre terrain de jeu.
Votre terrain de jeu.
Oui, on prenait les transports en commun et on allait au cinéma, on allait au théâtre, on allait au concert, on allait de partout, on allait dans les parcs, on allait se balader dans Paris. Et on faisait beaucoup de marches à pied parce qu'on ne conduisait pas encore à l'époque. C'est vrai qu'on habitait à la campagne, mais on était tellement heureux de partir dans cette immense ville, une immense cité de culture sur Paris qu'on était les rois du monde, quoi.
Quand vous dites on était, c'était vous et vos frères et sœurs?
Non, on était une bande de copains, c'était génial, les copains, les copines, on a fait les 400 coups à Paris, c'était magique, quoi. C'était jamais méchant, on va dire, mais on était libre comme l'air en fait, c'était magique.
Comment vous êtes retrouvé dans le sud de la France, Laurent ?
Alors, j'ai été muté par mon employeur. En fait, j'ai un BEP, jardin espace vert. J'ai été intérimaire pendant quelques années et j'ai été embauché en fait par ces sociétés d'intérim. J'ai eu du bol entre nous parce que voilà, BEP, jardin espace vert, et se retrouver en tant que secrétaire dans une agence d'intérim, c'était rigolo parce que le fossé est immense.
Oui, effectivement.
Et je me suis dit finalement, c'était une chance extraordinaire et incroyable dans ma vie professionnelle. Donc j'ai fait 7 agences sur Paris, région parisienne, j'ai rencontré des gens extraordinaires et puis un jour j'ai eu l'opportunité d'avoir une mutation. Donc moi j'avais demandé Montpellier, Nîmes ou Marseille et j'ai atterri à Bagnoles.
Pas mal, c'est quand même le sud.
Ouais, c'était intéressant parce qu'on m'a dit voilà, c'est à 1 heure de la mer et à 1h30 de la montagne. J'ai dit ok, je prends. En plus les places de Nîmes étaient prises, Montpellier c'était pris, Marseille ça venait d'être pris.
Et donc, vous avez quitté la région parisienne.
J'ai quitté la région parisienne du jour au lendemain. J'ai pris mes fonctions en tant que commercial. Et donc, j'ai travaillé, j'ai découvert tout le monde du nucléaire que je ne connaissais pas. Tout le monde, on va dire, languedocien que je ne connaissais pas. Et puis aussi ce langage, ce patois, cette manière de parler, de communiquer, parce que ce n'était pas la même que moi en banlieue parisienne ou sur Paris. Il y a un accent. Et puis, oui, c'est vraiment... je comprends en fait pourquoi le film Les Ch'tis a autant cartonné, parce que ne serait-ce que quand on s'exprime avec les mêmes mots, mais pas avec la même intonation, c'est énorme, quoi.
Mais ça, c'était en quelle année, ça, vous êtes arrivé ?
Je suis arrivé en 93.
Ah oui, ça commence à faire un bail, là.
Ouais.
Vous êtes bien adapté et inculturé ?
Oui, je pense, oui. Après, il y a un petit accent qui est là, chantant tranquille. Mais c'est vrai qu'ici, il y a une qualité de vie, il y a une luminosité, il y a une lumière qui est magnifique. Hein. Et finalement, c'est vrai que ça a été un cadeau du ciel parce que avec ce qui m'est arrivé en 97, ouais, c'est clair que je préfère que ce soit arrivé ici qu'en banlieue parisienne, c'est clair.
Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé en 97 ?
Alors, il a fallu que j'arrête de travailler puisque je ne pouvais plus conduire. Hein. J'ai eu un début de décollement de rétine, donc c'était un peu compliqué. En fait, je suis né myope de naissance. J'ai eu des lunettes à l'âge de 11 ans. Donc, on va dire que le mal était fait au niveau de mes yeux. Ils étaient déjà très fatigués et très épuisés. Donc, j'ai l'œil droit qui, à partir de 20 ans, est parti un petit peu en sucette, on va dire. Donc, la cicatrice était sèche, donc c'était très compliqué. En fait, j'ai une dégénérescence maculaire bilatérale. Donc, l'œil gauche, j'ai perdu 5 dixièmes en 97. J'ai ma fille qui avait 1 an, j'ai eu un accident de voiture pas très grave, mais en fait ça m'a fait prendre conscience sur le fait que j'étais papa. Il fallait revoir un petit peu sa vie, la vision des choses. Donc en commun accord avec ma direction, je me suis mis en arrêt maladie. Donc j'étais en longue maladie pendant 2 ans. Et après j'étais reconnu en fait par les institutions en tant qu'invalidité en fait, en invalidité pardon. Et donc c'est à partir de ce moment-là en fait, ça a été encore une autre renaissance. Peut-être comme les chats, je ne sais pas si j'ai cette vie ou pas. Mais...
En tout cas, vous êtes très résilient, ça on peut le dire.
Tout à fait. Donc j'ai arrêté de travailler contraint et forcé et je me suis lancé en fait de suite dans le bénévolat parce que ma fille a commencé son école, hein, donc elle est en maternelle. Moi, je l'amenais le matin et puis je ne voulais pas m'ennuyer toute la journée dans ma maison et attendre
parce
le soir.
Parce que votre épouse travaille.
À cette époque-là, en fait, mon épouse a repris le travail.
Oui.
Voilà, elle travaillait pas, elle avait pris un congé parental et donc en commun accord en fait, c'est elle qui a repris le boulot. Parce qu'on ne savait pas non plus ce que ça allait donner, en fait, les deux adultes dans la maison. Hein. C'est jamais très simple.
Hein. Oui, c'est sûr.
Et puis, le but, c'était aussi de avoir un statut social et l'un et l'autre. Et puis, voilà, la preuve en est, c'est qu'on a choisi le bon chemin, puisqu'on est toujours ensemble, puisqu'on a un garçon qui est arrivé ensuite. Donc, voilà, Manon, maintenant, a 23 ans et Sacha a 15 ans. Et très heureux, finalement, d'être en validité, parce que tout ce temps qu'on m'a fait cadeau, j'essaye de l'utiliser en fait de manière pertinente et de manière cohérente. Quoi.
Alors, quand vous avez commencé le bénévolat, c'est au moment où votre fille a intégré l'école. Qu'est-ce que vous êtes intégré comment? Qu'est-ce que vous avez?
Alors, je me suis investi dans le comité des fêtes du village où j'habitais.
Saint-Nazaire, c'est ça?
C'était Laudun à l'époque.
C'est Laudun.
Hein. Ouais. Quand j'étais muté à Bagnols-sur-Cèze. Hein. Ensuite, donc, j'ai déménagé à Laudun. Et puis, je me suis investi donc au comité des fêtes. Après, j'étais un petit peu au service de la culture. Hein. Et puis ensuite, on est venu me chercher pour créer un club de roller. Hein. Donc, moi, le roller, je ne maîtrisais pas trop. Déjà, le vélo, j'avais super peur parce que au niveau de la vue, forcément, hein, c'est compliqué. On a un problème de notion de vitesse, de distance et puis d'équilibre. Et puis, quand on voit tout flou, c'est compliqué de faire du vélo. Donc c'était pas triste. Donc j'ai créé un club de roller. J'ai appris à faire du roller avec une prof qui allait avoir un agrément d'État. Et puis très confiant, finalement on a créé ce petit club qui paraît devait durer quelques mois et finalement il existe encore parce que j'ai laissé ma place à d'autres personnes entre guillemets qui la voulaient. Donc je leur laisse avec grand plaisir. La preuve, il existe encore donc c'est très bien. Et en soi, j'ai déménagé.
C'est quand même incroyable qu'on soit venu chercher une personne avec une difficulté de vision pour créer un club. C'est parce que vous avez plein d'autres qualités.
Parce qu'en fait, les gens ne voient pas que je ne vois pas. Peut-être que c'est ça, en fait, ma philosophie de vie. En fait, c'est peut-être de faire voir aux gens que je vois, alors qu'en fait, je ne vois pas beaucoup, finalement. Mais c'est peut-être justement la force intérieure qui fait que ce message est transmis. Après, les gens, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aussi qu'ils creusent pour connaître les gens. C'est-à-dire, les apparences sont souvent trompeuses, hein, n'est-ce pas?
N'est-ce pas? C'est vrai. Donc, vous avez créé ce club, puis ensuite?
Donc, j'ai créé ce club. J'ai appris à faire du roller à des enfants que je ne voyais pas. Donc, on leur avait mis des chasubles fluo. On prenait des plots fluo, des cercles fluo. Enfin, le but, c'était de créer une cohésion et puis d'avoir un mouvement, créer une équipe de roller hockey. Donc, les petits bouchons, finalement, aujourd'hui, il y en a qui sont devenus papa et d'autres mamans. Et puis, on s'est perdu de vue, entre guillemets, mais moi, je les suis un petit peu parce qu'ils sont souvent sur les réseaux sociaux. Et moi, avec l'association Canet Partage, en fait, j'y suis aussi très souvent. Et c'est vrai qu'on avait réussi à créer tout cet état d'esprit, en fait, du fair play, le respect de l'autre, la confiance en soi, le fait de créer une équipe. Le gardien, s'il se prend un but, c'est que ses copains, en fait, devant, ils n'ont pas joué le jeu, entre guillemets, c'est qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait au niveau de leur rôle. Donc en fait, tout le monde était responsable lorsqu'il y avait une défaite. Mais c'est pas parce qu'il y avait une défaite, en fait, qu'on était mauvais, qu'on était nuls.
Ben non.
C'est peut-être que ceux d'en face étaient plus forts.
C'est tout.
Voilà, donc après, j'ai déménagé sur Saint-Nazaire. J'ai atterri à Saint-Nazaire où je me suis retranché dans une petite maison en pleine campagne parce que j'avais besoin de me ressourcer en pleine nature. Et puis cette nature, en fait, nous le rend bien parce que j'étais pas agressé par toutes ces lignes rectilignes, horizontales, verticales, tous ces immeubles, tous ces bâtiments, toutes ces lumières. Moi, le vert et le soleil et la brume, la pluie, tout ça, ça me fait du bien aux yeux parce que ça m'évite justement de j'écarquille les yeux, mais d'une autre manière. En fait, c'est parce que tout ce que je vois autour de moi, en fait, je vais m'attarder à regarder une fleur pousser, à écouter une abeille, enfin, chercher un oiseau dans un arbre. Je vais prendre un brave moment, mais je vais essayer de le trouver.
Avant le chat.
Ouais, le chat, c'est où sont les oiseaux.
Et vous avez créé autre chose.
Oui, donc.
En fait, d'être à l'écoute. Ce que j'entends, c'est que vous êtes à l'écoute de ce qui se passe et à l'écoute des besoins qu'il peut y avoir autour de vous.
Oui, parce qu'en fait, moi, j'essaye de pallier à mes besoins à moi. Donc, j'essaie de trouver des astuces, hein, des combines. J'essaie d'être malin, en fait. C'est quand je pose le pied droit, je sais où est le pied gauche. Le but, c'est d'éviter les obstacles et les anticiper. Donc, j'avais une amie dont les enfants avaient appris à faire du roller, justement, avec moi. Et cette dame faisait partie du conseil municipal des jeunes de Bagnols-sur-Cèze. Et un jour, elle m'a invité à exposer pour un marché de Noël. On a sympathisé, on a discuté. Et moi, en fait, on m'avait...
Exposé quoi ?
Des tableaux. Parce que je fais des tableaux aussi. Je crée avec des petits morceaux de papier. Je travaille beaucoup la matière et j'invite les gens, en fait, à toucher mon travail. Hein. Ce qui est assez rare dans le domaine de l'art, mis
ça,
à part
sûr.
La sculpture. Mais moi, je fais confiance aux gens parce que les gens, en fait, ils vont délicatement. Même le plus balèze des balèzes, en fait, il ira du bout du doigt pour toucher mes tableaux. Et je peux le dire parce que je l'ai vu et je l'ai vécu. Et ça amène un sourire, une émotion et un vrai partage hallucinant, quoi. Et donc, pour revenir à ce conseil municipal des jeunes, j'ai rencontré 33 jeunes, donc 33 enfants, et ça rentrait dans leur profession de foi. C'était aider les personnes handicapées et protéger l'environnement. Donc, moi, je suis arrivé sur le sujet des canettes, hein, les canettes en métal de boisson, parce que c'est un vrai désastre urbain, c'est un vrai fléau, on en retrouve de partout. C'est pas qu'on boit des canettes, c'est qu'il y en a qui les boivent, donc à y être, autant les utiliser intelligemment. Et le but, c'est d'orienter le consommateur, en fait, à jeter son déchet dans la bonne poubelle, mais d'arrêter de la louper. Voilà, donc Canette Partage est né. Au départ, on l'a travaillé pour l'école de Nice, hein, parce que j'étais bénévole de l'école de Nice, hein, pour les chiens guides aveugles. Hein. Oui, à Aise, exactement, il y a une école à Aise.
Et, on est venu vous chercher de loin.
Oui, on est venu me chercher en plus pour être responsable du Gard Rhodanien, pour travailler pour les chiens guides aveugles de Nice. Hein. Donc, on organisait des spectacles, des manifestations, on vendait des bougies, on vendait des peluches, voilà. On a récupéré des milliers d'euros avec plein de bénévoles. On a distribué tout ça à l'école de Nice. Hein. Et puis, ce projet Canette, en fait, je l'ai proposé à cette école, mais c'était pas encore dans la philosophie de ma... C'était pas dans ma tête, en fait. C'est quelque chose qui allait pas. Parce qu'ils se moquaient sur le fait qu'eux faisaient des galas, des lotos, des tombolas. Et c'était pas assez riche. Oui, assez prestigieux, tout à fait. Le fait de collecter un déchet qui... Nous, en fait, ce déchet, on le chopait avant qu'il aille à la poubelle. Hein. Donc, en soi, il n'était pas souillé par d'autres déchets. Mm. Il venait juste d'être utilisé. En fait, il était encore presque propre, on va dire. Et nous, le but, c'était de valoriser cette matière pour récupérer des fonds. Et pour eux, c'est, en effet, ce n'était pas assez prestigieux. Donc, on s'est rapproché d'une autre école qui s'appelait Hydra Europe à l'époque. C'était un projet fantastique de deux personnes déficientes visuelles, donc, dont un qui était aveugle et une qui perdait la vue, qui, hélas, maintenant, aujourd'hui, non-voyante aussi. Donc le couple s'est séparé, ça a éclaté et le projet, il existe hein, en soi. Après, je ne porte pas de jugement de la manière où il a été construit. Le principal, c'est qu'il existe pour aider les enfants aveugles. Donc on s'est rapproché de ce projet parce que justement, il touchait les enfants aveugles. Donc on a financé un chien pour une jeune fille aveugle de Besançon. On a récupéré plus de 20 000 euros en 3 ans.
Oh, c'est une grosse somme, effectivement.
C'est une grosse somme, ouais, c'est le prix d'un chien, on va dire. Ouais. En plus, donc cette jeune fille, elle avait une maladie qui s'appelle le syndrome d'Alström. Donc elle était très malvoyante. Très malentendante. Et ce syndrome, en fait, déclenche des soucis de poids par rapport à toute sa diététique. Il fallait gérer vraiment sa nourriture, son alimentation. Donc, nous, comme c'était le dernier projet qu'on aidait au niveau d'un chien guide d'aveugle, on lui a financé une cocotte minute parlante. Elle allait faire ses études à Limoges, elle était de Besançon. Et donc, cette cocotte lui a servi très longtemps parce que ça lui permettait de faire cuire le riz, toute son alimentation et gérer toute sa diététique, en fait. Du coup, au niveau de son poids, ben, elle a réussi à bien maîtriser les choses et bien gérer. Et elle a bien travaillé, cette cocotte minute parlante. Voilà, donc on a arrêté les chiens guides d'aveugles parce que nous, en tant que déficients visuels, en fait, c'est pas qu'on avait fait le tour de la cause et de la maladie, mais c'est qu'on voulait vraiment ouvrir le projet de manière universelle, aider toutes les causes, toutes les maladies. Vraiment comme le colibri, en fait, chacun ramène sa pierre à l'édifice et puis plus on est nombreux et plus on fait avancer les choses et plus les portes s'ouvrent, en fait, parce que les causes sont différentes et variées.
Et donc le projet, il est né au départ pour quelques mois. Et il porte un nom, c'est Canette Partage.
Oui, au départ, il avait plein de noms, Opération Canette. Enfin, on se cherchait un petit peu. Et puis, on a été abordé par des jeunes, des étudiants qui aiment bien travailler et communiquer par SMS. Donc, on a appelé le projet Canette Partage. Donc, K parce que c'est la lettre K, en fait, c'est phonétique.
Oui.
K parce qu'on est tous des K, on est tous uniques, tous différents. Net, plus loin, donc NET, parce qu'on travaille énormément par Internet pour que la planète soit nette. Et puis, le partage, en fait, a été trouvé en commun avec des amis aveugles, parce que ce mot, en fait, il a du sens. Et je pense que depuis 15 ans, en fait, on lui donne le sens qu'on n'aurait jamais pu imaginer dès le départ, en fait.
Donc, ce projet, au départ, devait s'essouffler, et il ne s'est pas essoufflé. Et pourquoi ?
Parce que peut-être qu'avec la ténacité que je me reconnais, il fallait qu'il quitte le trottoir du parking de la piscine de Bagnoles hein, parce que c'est pas que l'énergie que j'avais donnée elle était non payée on va dire, non rémunérée, mais je savais qu'on avait mis les pieds quelque part à plein de niveaux, au niveau risque sanitaire, au niveau social, au niveau humanitaire, au niveau écologique, et le développement durable en fait il va bien au-delà de tout ça finalement. Une fois qu'on avait réussi à récupérer 20 000 euros en 3 ans, quelque part en fait le projet le plus onéreux avait été déjà effectué finalement. On avait déjà réussi à atteindre le Graal, on va dire entre guillemets. C'était donc pourquoi pas finalement collecter de l'argent grâce au recyclage de ces canettes et puis l'étendre dans toute la France. Donc,
parce que ce geste de jeter sa canette au bon endroit, il faut que ça devienne une habitude de tous.
En fait, c'est ça, c'est que si les gens vont trier à la source leur matière, leurs déchets, ils vont mettre d'un côté la canette, ils vont mettre d'un côté le verre, d'un côté le carton, d'un côté le papier, d'un côté le plastique. S'ils se rendent compte que les bouchons, ça permet d'aider les enfants qui veulent faire du sport avec handisport. Si le verre, ça permet d'aider la recherche pour le cancer. Si le papier, ça permet d'éviter de couper des forêts stupidement, alors que cette forêt, elle est importante pour nous, pour qu'on puisse respirer. Ben pourquoi pas cette petite canette ? Nous, on est resté uniquement sur ce déchet parce qu'on ne voulait pas s'éparpiller. Et puis, c'est intéressant de connaître le monde du recyclage, le monde du le prix de la matière. Il y a des canettes en alu, des canettes en acier, il y a des canettes en produits mélangés. C'est un peu comme la bourse, en fait. Les tarifs sont fluctuants, ça peut chuter du jour au lendemain. Mais c'est vachement intéressant, en fait, ce milieu du recyclage. C'est très intéressant.
Vous avez exploré tout cela ?
Oui, parce que c'est important de le savoir, en fait. Il ne faut pas que tous les bénévoles qu'on a aux quatre coins de France, en fait, soient déçus de ramener que 10 centimes. Les gens, ils vont ramener leur kilo de canette, ils vont dire « Ouais, Laurent, je suis désolé, j'ai récupéré que 5 centimes. » C'est pas grave en soi, c'est pas si important que ça, la valeur financière. Ce qui est important, c'est de récupérer cette canette, en fait, qui allait dans la rivière, qui aurait pu aller dans la mer, et ainsi de suite. C'est parce que dans une canette, il y a un film plastique qui est dedans. Et voilà, il y a beaucoup de composants chimiques qui sont très dangereux, en fait, pour l'environnement. Le petit poisson dans la rivière, en fait, il va manger ce petit morceau de plastique qui protège l'aluminium ou le métal qu'il y a dans cette canette. Cette canette, en soi, elle va se rouiller, elle va se désagréger dans la nature.
Mais ça va prendre combien d'années déjà ?
Elle va prendre 200 ans. Mais il y a l'autre sens aussi au niveau de la fabrication de cette canette. En fait, pour fabriquer cette canette, il faut aller de l'autre côté de la planète pour aller chercher la bauxite. La bauxite, c'est cette fameuse roche rouge, qu'on récupérait à une époque sur Salon de Provence. Bon, maintenant, les carrières sont un peu de plus en plus épuisées en France. Mais maintenant, il faut aller en Côte d'Ivoire, il faut aller en Nouvelle-Zélande, il faut aller en Grèce. Il faut aller de partout pour aller chercher cette matière, mais il faut aller en bateau. Donc, il faut forcément du pétrole, il faut forcément beaucoup d'énergie, en fait, pour transformer cette pierre en aluminium. Il faut de l'électricité, il faut de l'eau. Donc, en fait, le fait de recycler cette matière, ça permet d'économiser toutes ces matières et toutes ces ressources vierges, en fait, finalement.
Mais à ce moment-là, on enlève de l'emploi ceux qui font...
Non, c'est...
Je vous taquine. Je suis à fond avec vous. Mais en même temps, cette économie qui s'est mise en place, elle a toujours besoin de toujours gruger plus. Il y a un côté où on peut se dire, tiens, si on récupère, eh ben, on enlève du boulot aux gens en Côte d'Ivoire ou ailleurs.
Non, parce qu'en fait, le fait d'aller chercher la matière première de l'autre côté de la planète, en fait, est-ce que vraiment les gens chez qui on va chercher cette matière, en fait, sont heureux qu'on leur prenne cette matière? Est-ce qu'ils sont réellement payés le vrai prix de leur travail et de leur labeur? Mais voilà, il y a aussi le côté humain qui rentre en ligne de compte.
Tout à fait.
Le développement durable, en fait, si on regarde bien le symbole du développement durable, il y a l'économie circulaire, mais il y a l'humain qui est au centre de tout. Et en fait, l'humain est en train d'oublier l'humain. Oui. L'homme ne pense qu'à l'argent, il pense qu'aux bénéfices, il pense qu'aux fruits de ce que ça peut lui rapporter. Nous, en fait, on pense à rien. On sait que le 31 décembre, en fait, il doit rester 0 euro sur le compte de l'association. Voilà.
Ce projet devait quitter Bagnols-sur-Cèze. Il ne fallait pas qu'il reste que là.
Non.
Il y est toujours, je veux dire, il s'est étendu. Il fallait qu'il prenne naissance quelque part, qu'il prenne ses racines, mais ensuite qu'il s'envole, quoi.
Ouais, c'était important, en fait, qu'il s'envole. Et justement, sont nés les réseaux sociaux. Et grâce à Internet, en fait, ces réseaux sociaux, en fait, ont permis de développer ce projet, ce processus. De rencontrer des gens qui ramassent les déchets dans toute la France et de partout, et puis leur dire, s'il vous plaît, mettez juste les canettes de côté. Vous les mettez de côté, ensemble, on va trouver le recycleur qui est le plus près de chez vous. Moi, je contacte tous les recycleurs dans toute la France. Les gens disent oui. À partir du moment où ils disent oui, moi, je pars du principe où quand on me dit oui, je fais confiance à la personne et je sais que ce sera un oui ferme et définitif. Donc, la personne qui a ramassé ses canettes va gentiment les ramener chez le recycleur le plus près de chez lui. Ce recycleur va les peser, il va les valoriser et il va mettre de l'argent sur le compte de canettes partage. Donc en effet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait ça peut être 10 centimes, 5 centimes, 60 centimes, 1 euro, 10 euros, 20 euros. Et puis chaque personne qui amène ses canettes chez le recycleur va sympathiser avec le recycleur. Donc il va y avoir une histoire qui va se créer, une amitié qui peut s'installer avec le temps. Le recycleur va se dire « Ok, moi je suis là pour faire de l'argent parce que C'est comme ça, je suis une entreprise, je dois faire de l'argent.
Ben oui, parce qu'il a besoin de payer ses salariés, entretenir son matériel, genre, c'est normal.
Voilà, mais lui, en fait, il est dans une philosophie financière, parce que c'est normal, en effet, il a des salariés à payer, il a des frais fixes, il a des matériels à payer, rembourser, des dettes et tout ça, quoi. Mais lui, ça donne du sens, en fait, à sa démarche et ça donne le beau côté de l'action. Dire, si ces petites canettes, finalement, elles permettent d'aider des enfants, de soutenir, de sauver d'aider la recherche, de sauver des enfants, de donner à manger à des enfants qui n'ont pas de quoi manger. C'est pertinent par rapport au travail qu'il fait. Et du coup, il va être encore plus enjoué de dire, ben voilà, ok, bon, je lui donne 10 centimes, allez, je vais faire un effort, je vais lui donner 5 centimes en plus.
Donc, il y a toute une dynamique positive qui se met en place et humaine.
C'est important d'avoir cette dynamique, justement, parce qu'on ne demande rien à personne. Les gens construisent le projet eux-mêmes, finalement. Ils le construisent avec leur cœur, avec leur philosophie. Et le partage, en fait, il vient tout seul.
C'est l'expérience que vous avez faite.
Oui,
et que vous faites, continuez de faire.
Oui, parce qu'en fait, tout mon message, il est là. Il est pas philosophique, parce que je n'ai pas cette prétention, quoi. Mais les gens construisent ce projet. C'est eux, en fait, qui le construisent, ce projet.
Vous l'avez juste donné naissance et puis hop. On se retrouve dans un instant, Laurent Gauthier, vous qui êtes président de cette association Canette Partage et qui avez accepté d'être le grand témoin d'Ecclésia cette semaine. À tout de suite.
Merci.